Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes à la fin de l'année. On se prépare pour la nouvelle année. Et quand on a l'habitude de souhaiter et d'espérer, et comme dans certaines communautés, ils disent ce chant à l'entrée de Rosh Hashanah, Techel Shana Vekilelotea, Techel Shana Ubirchotea. Ça veut dire que l'année avec ses malheurs se termine et l'année avec ses bénédictions commence. C'est ça qu'on espère bien sûr, que ce soit une bonne et douce année pour tous. Mais il faut quand même faire quelques points. On va aujourd'hui essayer de faire un petit tour autour de ce que c'est le Rosh Hashanah. Cette date, ce jour qui marque le début de l'année juive, ça correspond à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe dans d'autres domaines? On peut dire qu'il y a un changement. On parle souvent du début du mois, il y a avec le fait que la lune, elle était disparue, elle recommence. Donc ça, c'est un cycle réel qui se passe une fois par mois. Pour la fête de Pessah, c'est lié avec une date de ce qui s'est passé, la sortie de l'Égypte. Il y a des gens qui marquent leur début de l'année, le début de l'année scolaire lié avec la fin de l'été, en fait, en tout cas relatif de l'été. En été, c'est difficile d'étudier. Alors, on a organisé la vie de telle manière qu'après l'été, on commence, ou bien à la fin de l'été où il fait moins chaud, on commence l'école dans certaines régions. Et de différentes choses, on peut comprendre les différents débuts de l'année, le début de l'année civile, certains l'appellent le début de l'année fiscale. Et c'est lié avec une période de choses qui s'est passées ou bien quelque chose réel qui se passe dans la nature. Mais qu'est-ce que c'est le début de l'année juive? Alors, aux yeux de certaines personnes, c'est très étonnant, ou bien ils n'arrivent pas à comprendre. Vous allez demander, vous allez entendre cette réponse, que c'est la date qui marque le début, la création du monde. Alors, bien sûr qu'à ce moment-là, il faut comprendre pas mal de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une date pour la création du monde. Pour la science, ça n'existait pas. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, on va essayer de faire un petit tour autour de quelques points qu'il faut éclairer par rapport à cette idée de Rosh Hashanah. Et puisqu'il y a beaucoup de points, donc on va faire point par point, mais on va rester dans l'idée générale, même si que c'est un sujet qu'on peut dire beaucoup et il faut dire beaucoup. Alors tout d'abord, par rapport à cette notion de la création du monde, alors cette année, on va marquer l'année 5786 depuis la création du monde. Très bizarre, qu'est-ce que c'est, ces chiffres? Alors, d'une façon générale, donner une date pour la création et donner des chiffres pour la création et que la science, elle parle des choses carrément différentes, des années. On est loin, si on peut dire, des années, des lumières de ce que pense la science. Alors, il y a plus de réponses. Ce n'est pas des réponses possibles, c'est des différents niveaux de réponses. Ça veut dire différentes étapes. Parce que. Alors, d'une façon générale, on peut parler de deux choses. Encore une fois, je ne développe pas beaucoup. C'est des sujets, de toute façon, qu'on peut trouver partout. Mais il y a une différence entre... quand la science, c'est quoi la science? Normalement, c'est des explications naturelles. On explique dans la nature comment les choses doivent être, selon des calculs ou autres. Je calcule, donc j'arrive à tel résultat. Mais parfois, pour arriver à un résultat, Alors il faut, ça dépend aussi des points de vue. C'est vrai que j'ai arrivé à ce résultat, mais ça dépend de quel plutôt point de départ, d'où je me base sur quoi pour arriver à ce résultat. Si je me base sur une base, donc à ce moment-là, je vais rajouter tel et tel chiffre, donc je vais arriver à tel résultat. Mais puis si la base est différente, donc alors la résultat, elle va être différente, même si que c'est le même calcul, le même schéma. Donc alors la science se base sur la notion, on ne connaît pas le début du monde, on sait ce qu'il y a devant nous, on calcule, et on voit comment le monde se développe aujourd'hui. Donc selon ça, on calcule et on essaie de voir d'où le monde vient, de comment il y avait cette évolution. Et donc, à ce moment-là, on fait des calculs, à ce moment-là, on arrive à ces calculs astronomiques des chiffres très très éloignés de nous. Mais ça, c'est la base, puisqu'on se base sur l'idée qu'il y a un début. Et à partir de ce début, il y avait un développement étape par étape. Donc, on essaie de voir comment les choses étaient évaluées. Par contre, si on se base sur l'idée de la création, alors la base est carrément différente. Donc, alors on essaie, à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'essayer de voir étape par étape, parce que la création, c'est la notion de la création, c'est qu'il y a quelque chose qui a été créé, hein, quelque chose de complet. C'est vrai qu'après, le monde, il a évolué, et à ce moment-là, étape par étape, alors là, il faut arriver à un autre point, mais je vais le mettre en parenthèse, c'est que les différents événements qu'il y a dans le monde faisaient que le résultat de ce qu'on a aujourd'hui ne correspond pas forcément assez aux différents moments de notre histoire. Ça veut dire qu'il y a des moments où le monde était quand même différent au niveau de chaleur ou bien d'autres choses, que les éléments qu'on calcule aujourd'hui, ils sont pas forcément corrects par rapport. On calcule par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, mais on peut pas calculer par rapport aux différentes choses que le monde est passé. Mais ça, c'est un sujet qu'il faut aussi développer. Mais je ferme cette parenthèse et je reviens en première idée, c'est que lorsque, et puisque on se base sur l'idée de la création, donc quand on parle de la création, alors Dieu, il a créé quelque chose de complet. À partir de là, on n'a pas besoin de calculer telle chose. Depuis le début, parce qu'il n'avait pas le début, puisque le début, comme si on va dire, si quel exemple on peut donner, mais on sait dans la Torah que la création, dans la création, il y avait aussi la création de l'homme. Et l'homme, tout de suite, on trouve en activité. On ne peut pas imaginer un homme qui est né sans aide aujourd'hui, il me semble. C'est pas possible. Chez les animaux, ça peut exister. Chez l'homme, il se débrouille pas tout seul. Donc, si il n'a pas l'aide, il n'est pas son père et sa mère, surtout sa mère, il va pas se débrouiller. Alors, la création était avec un homme et une femme qui commençaient tôt et ils ont été créés adultes. Donc, à ce moment-là, s'ils ont été créés adultes, il ne faut pas chercher ce qu'il y avait avant l'âge adulte parce qu'ils ont été créés comme ça. Toute la création a été créée à l'âge adulte, à l'âge âgé. Donc, à partir de là, ça change beaucoup de données. Et donc, le résultat aussi, il change. Juste, c'est un point qu'il faut développer, mais j'aimerais bien continuer plus loin. Alors, on parle d'une création et la Torah nous donne des dates. Les dates, il est marqué dans la Torah que Dieu il a créé le monde en 6 jours. Là aussi, ça pose un problème. 6 jours pour créer le monde, c'est énormément de choses. Encore une fois, les chiffres qu'on a dit tout à l'heure. Et là aussi, effectivement, puisque la Torah nous dit, je sais qu'il y a d'autres visions dans le judaïsme, mais non sur les visions de Rabbi de Lubavitch. C'est le plus correct à tout niveau, c'est que on parle de 7 jours de création, bien 6 jours de création, mais chaque jour de création, puisqu'on parle de la création, après la création, le monde dans son état, il avance doucement. Mais au moment de la création, il y a des choses, effectivement, que normalement, ça doit durer des millions d'années pour arriver à cela. Mais puisqu'on est dans la création, ce n'est pas quelque chose que d'autres choses. Tout commence par là. Alors, au moment de la création, effectivement, Dieu il a créé les choses adultes. Il a créé les choses, les différentes choses d'une façon qu'ils sont vieux. Donc, alors, on peut dire que chaque jour de la création, c'est des vrais jours, de 24 heures. Mais chaque jour de la création, Dieu a créé des choses que normalement, il devrait durer des millions d'années ou des milliers d'années. Mais effectivement, donc alors, quelque part, tous ces milliers et des millions d'années ou d'autres chiffres qu'on trouve dans la nature, tout, on peut les trouver dans la création parce que Dieu il a créé des choses adultes. Alors encore une fois, il y a beaucoup de développement dans cette idée. Mais donc, alors, à ce moment-là, le judaïsme nous parle. Puisque je parle d'une façon très générale aujourd'hui, donc alors le judaïsme nous parle de la création du monde, et que le monde il a été créé en 6 jours. Et chaque jour, c'est vrai que c'est un jour de 24 heures, mais c'est un jour qui est très concentré, puisqu'on parle de la création. Et j'ai envie de rajouter des choses, mais puisque notre temps est limité, alors j'essaie de m'empêcher. Mais il y a quelque chose de très logique là-dedans. En tout cas, alors, on parle de la création et en 6 jours, comme on a dit tout à l'heure, que pendant 6 jours, Dieu a créé tout. Après, Dieu il a laissé le monde quelque part tourner, même si il est toujours présent, bien sûr. Mais quelque part, il y a une notion naturelle. Mais avant ça, il y avait la création en 6 jours et chaque jour de la création représente effectivement des milliers d'années ou des milliards d'années ou des millions d'années, mais en tout cas, mais c'est des choses qui ont été créées en 24 heures et pourtant, pendant les 24 heures, il y a le sujet qui a été créé et des choses qui normalement auraient dû prendre des millions d'années. Bien, alors ça, c'est par rapport à ce premier point. Donc, le jour de Rosh Hashanah, on fête, ou bien en mémoire, la création du monde. Mais en vérité, ce n'est pas vraiment la création du monde. Le jour où je vous parle, c'est le jeudi. Quand on est aujourd'hui, le jeudi 18 septembre, que ça correspond à la date juive de 25 Elul. Il est marqué donc dans le Talmud que le monde a été créé le 25 Elul, donc le jour d'aujourd'hui. Il y a une autre opinion que le monde a été créé le 25 Adar, mais on ne va pas rentrer là-dedans. C'est une autre notion, mais nous on suit cette idée que le monde a été créé le 25 Elul. Et le jour de Rosh Hashanah, le jour où on fête le jour de Rosh Hashanah, il correspond plutôt au sixième jour de la création, là où l'homme a été créé, puisque, comme la Torah nous raconte, le premier jour, il y avait le monde en général, et avec ses potentiels, quelque part, tout a été créé le premier jour, mais surtout, ce qu'on voit, l'apparition de certaines choses, surtout la lumière, le deuxième jour, Dieu l'a séparé entre ciel et terre, ça aussi c'est un sujet à comprendre. Le troisième jour, déjà il y a une séparation entre la terre et la mer, et les plantes qui apparaissent. Le quatrième jour, c'est les astres. Le cinquième jour, c'est les volailles et les poissons. Le sixième jour, c'est les animaux terrestres. Et enfin, l'homme. Donc le jour qu'on fête la date de Rosh Hashanah, c'est la date qui correspond à la création de l'homme. Pourquoi, si on fête la création du monde, pourquoi on ne le fête pas à la date où il faut? Pourquoi on le fête à la date de l'anniversaire de la création de l'homme? Alors là aussi, on arrive à cette idée que le but de la création, c'est l'homme. Et non seulement que le but de la création c'est l'homme, Dieu il a créé un monde complet d'une part, mais d'une autre part, pas du tout. Ça veut dire qu'il donne à l'homme toute sa responsabilité à développer ce monde et à travailler au niveau spirituel et aussi au niveau matériel. Alors ça, c'est encore un sujet, pourquoi Dieu il a créé comme ça le monde, mais c'est une réalité. On a un monde qu'on ne connaît pas et petit à petit on le découvre au niveau matériel et aussi au niveau spirituel. Donc puisque c'est ça le but, l'œuvre de l'homme dans la création, donc c'est pour ça qu'on fête la création du monde le jour de la création de l'homme. L'homme parce que c'est ça l'essentiel. Mais à partir de là, on arrive à une autre idée. Le jour de la création de l'homme, il s'est passé beaucoup de choses. Et même si que normalement, chez nous aujourd'hui, entre la naissance, le moment où on commence à agir, et il y a des jours, mais selon la tradition, comme on a dit tout à l'heure, l'homme, Dieu, il a créé un monde complet. Et aussi, il y avait l'homme qui était adulte. Et le jour même, il y avait l'histoire de l'interdiction de manger le fruit interdit. Et l'homme, il a finalement mangé, comme la Torah nous raconte, l'histoire que tout le monde connaît. Et là aussi, il faut comprendre cet sens, parce que ce n'est pas une petite histoire pour des enfants. C'est une histoire très profonde. Toute la profondeur des libres arbitres se trouve dans cette histoire. Mais on va laisser encore ce sujet pour une autre fois. Donc, il y a dans la Torah cette histoire que Dieu il place l'homme dans le jardin d'Éden. Alors, il faut savoir que le jardin d'Éden, ce n'est pas un endroit où on prend du soleil. Il est marqué là-bas pour la travailler et pour la garder. Donc, alors, qu'est-ce que c'est travailler et garder? Il faut comprendre, mais de toute façon, l'homme, il est là de toute façon pour travailler. Pour travailler, même dans le jardin d'Éden, c'est pas un endroit pour se bronzer seulement, c'est un endroit où on travaille. Donc, depuis le début, on voit la notion de travail. Et pourtant, il y a un travail agréable. Ça veut dire que quand quelqu'un il travaille d'une façon agréable, même si qu'il travaille, il fait d'efforts, mais ça s'appelle le jardin d'Éden. Après, le monde a changé après la faute. Et à ce moment-là, le travail est dur et indésirable. Mais quand on fait quelque chose, même s'il est dur, mais quand on le fait avec plaisir, alors c'est une notion de jardin d'Éden. En tout cas, comme ça, il est marqué que Dieu il a placé l'homme dans le jardin d'Éden avec sa femme. Mais juste avant ça, parce qu'il y a encore un détail, le jour même, dans la Torah, il n'est pas marqué les dates. Mais ça aussi, c'est la tradition qui dit que le jour même, Dieu, il a fait traverser les animaux devant l'homme, il a demandé de donner des noms. Il a donné des noms et là, il a remarqué que tous les animaux, ils sont en couple. Seulement lui, il n'est pas en couple. À ce moment-là, il a senti le manque, il a prié et à ce moment-là, Dieu, il a fait comme un clonage. Et il a fait à partir d'une côte, ou bien de différentes manières, là aussi il y a des différentes opinions sur ce qui s'est passé. En tout cas, il a créé à partir de là la femme. Alors là aussi, c'est un autre élément important dans le jour de Rosh Hashanah qu'on garde en mémoire et qui, et selon la Kabbale, la création de la femme, c'est aussi un sujet actuel du jour de Rosh Hashanah. On va en revenir. Et ensuite, le troisième élément des jours de Rosh Hashanah, c'est donc, comme on a dit, le jour même, l'homme a été. Il a reçu l'ordre de ne pas manger tous les fruits de l'arbre, qu'il peut manger tous les fruits de l'arbre, sauf tel fruit que Dieu l'a indiqué. Et finalement, il a mangé, et finalement, bien, le monde a changé. Et la vie de l'homme a changé. Et il sort du jardin d'Éden, etc. Alors là aussi, il y a beaucoup de points, mais je vais essayer d'arrêter sur un point, qu'à partir de là, puisque ce jour, l'homme il a été jugé, ça devient le jour de la justice. Donc alors, le jour de Rosh Hashanah, d'une part, c'est un jour de fête. Il faut bien manger. C'est parmi les choses importantes de manger bien, et comme la tradition veut que le soir de Rosh Hashanah, il y a tout un seder, tout un ordre de ce qu'on mange, surtout dans la communauté sfarade, où on rajoute beaucoup de détails, où on mange ça, on mange ça, on mange ça, mais tout le monde, ils ont l'habitude quand même de manger des choses douces et souhaiter une année douce. Mais quand même, le sujet de ce jour, c'est un jour de justice où Dieu va nous juger et en espérant, on est sûr que l'année, elle va être bonne. Mais c'est un jour de la justice. Alors à ce moment-là, on a trois éléments de ce qui marque le jour de Rosh Hashanah. La création du monde et la création de l'homme. Mais dans la création du monde, alors l'essentiel, c'est la création de l'homme, parce qu'il est là pour travailler. Et ensuite, il y a la création de la femme, quand même si c'est un ensemble, homme et femme, mais il y a quelque chose chez la femme qu'il n'y a pas chez l'homme, cette notion de développer. Ça veut dire qu'il y a un point où chez l'homme se donne dans un point, chez la femme c'est la notion de développement. Et ça aussi, c'est une idée de Rosh Hashanah, que l'homme il doit développer. Donc, on est là pour développer le monde que Dieu nous a mis dedans. Et le troisième point, le jour de la justice. Maintenant, il y a encore quelque chose, même si c'est des sujets qu'on développe, on a comment on pratique le jour de Rosh Hashanah. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il y a ce qu'on mange, mais il y a aussi la grande prière. On demande une bonne année, mais pas seulement. On demande quelque chose d'étrange. On demande à Dieu qu'il soit notre roi. Peut-être aujourd'hui on ne va pas parler de ça, mais c'est un sujet très large dans la chassidoute. Mais le point essentiel de ce jour, c'est la sonnerie du shofar. Alors la sonnerie du shofar, c'est la chose qui est marquée dans la Torah. Il est marqué qu'il faut un jour de sonnerie. Il n'y a pas de détails, mais petit à petit on a dans la Bible des détails qui nous disent qu'est-ce que c'est ces sonneries, mais en tout cas c'est un jour de sonnerie. La prière, bien sûr que c'est important, mais on ne parle pas de prière. Et dans la Torah, ce qu'on mange Rosh Hashanah, c'est la tradition, mais on ne parle pas de ça. Dans la Torah, mais l'idée de la sonnerie, c'est ça le sujet qu'on nous parle. Effectivement, comme chaque chose, il y a une idée, il y a le développement, mais il y a les choses qui se passent finalement par un point, par un acte. Ça veut dire qu'il y a toute une idée de Rosh Hashanah, ce qui se passe Rosh Hashanah. Chaque année, les jours de Rosh Hashanah, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ça passe par un acte, comme quelqu'un qui a une voiture avec tous les détails, mais la voiture ne va pas fonctionner s'il n'appuie pas sur les bons boutons. Et les boutons, c'est l'acte qui fait finalement fonctionner la voiture. Donc, ça veut dire qu'on a mis beaucoup d'efforts, mais finalement il y a un acte, ou plusieurs actes, mais surtout un acte, qui fait fonctionner les choses. Là aussi, il y a l'idée de Rosh Hashanah qui tourne autour de beaucoup des idées, mais l'acte qui fait fonctionner Rosh Hashanah, et c'est l'acte le plus important, c'est la sonnerie du shofar. Alors, si vous voulez faire bien Rosh Hashanah, c'est vrai que le repas est très important, parce que la tradition est très importante. Mais le sujet que surtout il faut faire d'effort, c'est pouvoir écouter le shofar. Donc on a l'habitude, on va sonner le shofar les deux jours de Rosh Hashanah. Donc ça va être mardi 23 et mercredi 24 septembre. Donc il y a dans tous les synagogues du monde, on sonne le shofar, les gens ils se réunissent. Ici, il y a des gens aussi, il y a la grande synagogue, elle sonne vers 11h et plus tard. Chez nous, on sonne vers midi et plus tard, et aussi le soir, contactez-nous. En tout cas, l'idée principale de Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du shofar. Maintenant, il y a parmi les sujets qu'on explique qu'est-ce que c'est la sonnerie du shofar, alors on comprend que le judaïsme tourne d'actes. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des grandes idées, mais les grandes idées passent par un acte. Si je ne fais pas l'acte, alors il ne reste plus rien de toutes ces grandes idées. Si je fais l'acte, alors c'est là où passent les grandes idées. Je prends un exemple là pour montrer comment parfois un acte, c'est ça qui fait passer tout un bagage. Mais en tout cas, c'est ça l'idée de Rosh Hashanah. Il y a des grandes idées et les choses passent par un acte. Maintenant, encore, puisqu'on passe d'un sujet à l'autre, Et toujours dans le même sujet, il y a, selon la Kabbale, alors c'est sûr qu'on prie pour une bonne année, mais selon la Kabbale, c'est dans l'italien qui l'amène, il apporte cette idée qu'il y a une année qui commence par Rosh Hashanah et se termine à la veille de Rosh Hashanah. Et chaque année, Dieu, il donne un sens. Il appelle là-bas une lumière, une nouvelle lumière qui n'existait jamais et qu'elle va faire vivre le monde pendant l'année. Et l'année prochaine, il y aura une autre lumière encore plus puissante qui va se révéler. Elle va éclairer le monde. En fait, elle va, on va pas l'appeler éclairer le monde, même si c'est vrai. Elle va quelque part alimenter, elle va faire vivre le monde. Et ça va durer jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et comme ça, d'une année à l'autre. Alors, comme on a dit tout à l'heure, même si que c'est très étonnant que nous, les petits hommes, on a la possibilité de changer, de faire. Dieu a décidé si l'année elle va être comme ci ou comme ça. C'est vrai que c'est étonnant, mais ça, c'est la base aussi du judaïsme, que Dieu il a créé des petits humains. Et pourtant, il leur a donné la possibilité de faire fonctionner le monde et faire quelque part, il veut que l'homme il influence soi-disant Dieu pour faire comme ci ou faire comme ça. Donc alors ça c'est vrai pour tous les ans. On a dit que chaque année il y a quelque chose de nouveau qui se rajoute. Ça aussi c'est une vision de la Torah, que le monde ne se dégrade pas, au contraire le monde il avance. Alors même si que dans le cas actuel, on peut poser beaucoup de questions. Quoi, le monde n'avance pas? On se rappelle le monde il y a 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, il y a dans les villes où parfois on dit à notre époque, ça n'existait pas aujourd'hui. Donc, alors, il y a cette vision chez certains que le monde se dégrégale. Et c'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas vrai. Donc, il y a des choses que on voit, mais on ne voit pas la profondeur des choses. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Mais la vision de la Torah, c'est que le monde il avance vers quelque chose de bien. Et chaque année, on avance encore. Même si que parfois, actuellement, on ne voit pas comment le monde avance. Et pourtant, le monde avance. Maintenant, encore un point important, que chaque année, elle a son identité. Ça veut dire, en plus du fait que chaque année est différente que l'année dernière, parce que d'une façon générale, comme ça, Dieu il a créé le monde, qu'il y aura toujours un rajout. De même que dans la technologie, tout le temps, on est en train de révéler de nouvelles choses. Et c'est vrai aussi pour la Torah, on révèle de nouvelles choses. Donc le monde, il est toujours dans. Il est en train d'avancer. Mais aussi, il y a une identité dans l'année. Comme si on peut dire carte son ADN. Là aussi, l'année, elle a un ADN qui, quelque part, caractérise l'année. Alors, même si qu'il y a le libre arbitre, de toute façon, ça dépend de l'homme, comment elle va être l'année. Mais d'une autre part, il y a des éléments célestes, quelque part, que Dieu il a programmé l'année d'une manière. Alors, où est-ce qu'on comprend, bien sûr, qu'à la fin de l'année, on a compris ce qui s'est passé cette année. Mais il y a un ADN, et l'ADN de l'année, normalement, on trouve dans trois domaines. C'est comme le jour de Rosh Hashanah. Il y a une autre notion. Est-ce que le mois, parce qu'on sait qu'il y a 12 mois ou 13 mois, est-ce qu'il y aura 12 ou 13 mois, bien sûr, parce qu'une fois par 3, par 2 ans, on rajoute un mois. Il y a encore quelque chose, c'est que il y a une différence entre l'année solaire et l'année lunaire, chaque année de 11 jours. C'est pour ça qu'il faut rattraper. Mais comme on parle de 11 jours, la différence, elle n'est pas exact. Et il y a certaines règles qui font que parfois, alors normalement tous les mois sont une fois de 29 jours, une fois de 30 jours. Donc ça va comme ça dans l'ordre. Tevet, il a le mois de Tevet, il a 29 jours, Shvat 30 jours, Adar, c'est il y a un Adar 29, Nissan 30, Iyar 29, c'est 20-30, Tammuz 29, Av 30, Elul 29, Tishri 30, et ensuite les deux mois qui suivent, alors parfois tous les deux ils ont de 30, parfois tous les deux ils ont de 29, parfois là 29, 20, 30. Un 29, un 30. Et c'est tous ces éléments qui font l'année, l'identité de l'année. Il y a beaucoup d'explications qui montrent quel rapport entre, par exemple, la date où commence l'année et le sujet, l'ADN de l'année. En tout cas, on a fait un petit tour de ce que c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un jour décidé pour l'année. On espère que de bien pour nous et pour le monde entier. Surtout que cette année, c'est assez rare, l'année commence le mardi. Et le fait que ça commence le mardi, c'est rare parce que pour ça, il faut que le Pessah de l'année dernière soit tombé samedi soir. Ce qui est assez rare. La dernière fois que c'est arrivé il y a 15 ans. Et la prochaine fois aussi, je ne me rappelle pas, mais quelque chose comme dans 20 ans, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, ça n'arrive pas très souvent comme les autres années, qu'il arrive une fois par 3 ans, ça se répète. Mais là, c'est quelque chose de rare. Et selon l'enseignement du Rabbi de Lubavitch, les jours de mardi, donc les jours, ce que la Torah nous dit par rapport aux jours de mardi, donc Yom Shlishi, ça s'appelle le troisième jour, il y avait deux créations différentes. Il y avait quelque part, Dieu a terminé la terre, comme il est marqué dans la Torah. Avant, la terre était remplie d'eau. Et il y avait la mer partout. À ce moment-là, il a fait une partie terre, une partie mer. Encore un sujet qu'il faut expliquer. Et ensuite, la deuxième activité, c'est qu'il a fait pousser les plantes. Et normalement, chaque jour de la création, il est marqué que Dieu il a dit que c'est bon. Il a vu que c'est bon. Donc, il confirme que ce qu'il a fait, il est bon. Kitov. En vérité, c'est plus que ça, mais on va dire comme ça. Il confirme que c'est bon. Il y a un jour où il n'est pas marqué seulement Kitov, que c'est bon, c'est le jour de lundi. C'est à partir de là, le jour de lundi, ce n'est pas le meilleur jour de la semaine. Il y a des choses qu'on évite à faire lundi pour ça. Mais ensuite, mardi, il a manqué deux fois Kitov. Ce qu'on ne trouve pas dans les autres jours, sauf vendredi d'une autre façon. Donc chaque jour, Dieu il dit que c'était bon. Le lundi, il n'est pas marqué que Dieu il a dit que c'était bon. Et le mardi, Dieu il dit deux fois que c'était bon. Pour deux activités, même s'il y avait plusieurs activités, mais deux sortes d'activités. En tout cas, si on va plus loin, selon cette vision, le fait que Dieu il a dit deux fois Kitov, c'est bon, donc ça donne un sens au jour, que c'est un bon jour. C'est pour ça qu'il y a des choses, on choisit parfois le mardi de faire certaines choses. On préfère mardi sur les autres choses et sur les autres jours, donc puisque Dieu il a doublé la bénédiction de Kitov, il a dit deux fois que c'est Kitov. Et dans la Chassidoute, on explique que deux fois Kitov, c'est bon. Alors, il y a parfois des choses qui sont bonnes pour l'un et ce n'est pas bon pour l'autre. Quand on dit deux fois Kitov, ça veut dire que c'est bon pour l'un et bon pour l'autre. C'est bon pour matériel et c'est bon pour spirituel. Donc, alors, on espère que puisque cette année elle commence par mardi, que cette année elle soit une bonne et douce année chez tout le monde. Chez tout le monde, une année de paix et une année de Mashiach. Merci pour votre écoute. Et à la semaine prochaine et donc à l'année prochaine. Shana Tova Metuka.
Fête et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.